Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. C'est l'épisode numéro 92, la suite de l'épisode 91. Donc nous sommes toujours le 5 octobre 2023. Et aujourd'hui, je suis toujours accompagné de cette équipe magnifique de l'épisode spécial Devox, à savoir, et je vous présente dans l'ordre, Sun.
Bonjour.
Sun Tan.
Je t'avais même commenté.
Oui.
Pour présenter. Ah,
bah, et pour les gens qui se feraient l'épisode en single.
Oui, je m'appelle Sun, je travaille pour Red Hat, je suis Senior Software Engineer, donc ingénieur logiciel. Je fais le meilleur métier du monde, je développe des outils pour les développeurs. Pendant mon temps libre, je co-organise le jeu de Paris et je fais aussi de la bière dans ma cuisine.
Seb ?
Je m'appelle Seb, je suis développeur advocate chez Ivan, qui fait des services managés autour de la data, l'infrastructure de data. Donc moi aussi, le plus beau métier du monde, hein, je rends les développeurs heureux. À côté de ça, je m'occupe de mes 5 chats. J'aide Horatio qui va se présenter bientôt à organiser le camping des speakers. Et je suis aussi co-organisateur de Riviera Dev. Donc voilà.
Bon, bah, moi, c'est Horacio González, espagnol perdu en Bretagne depuis plus de 20 ans déjà. Et moi, je suis responsable de la team DevRel, Developer Relations, chez OVS Cloud. Et aussi, bah, j'organise les groupes de développeurs de Finistère, le Finistère. Je co-organise avec Sevi et d'autres personnes comme Relivage, les campings de speakers. Je fais plein de trucs autour de ça. Je ne brasse pas de la bière dans ma cuisine, ça, je suis un peu trop vieux pour ça. Mais
surtout que la consommation bretonne de bière ne te permet pas de faire dans une cuisine, il faut des cuves.
Et je m'occupe de mon chat, il est qu'un seul, mais j'ai trois gosses pour compenser. Donc, ça, à niveau.
J'ai les enfants aussi, mais.
Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, nous sommes dans l'épisode spécial d'Evox, donc on est en verse. Donc, la réalité, c'est qu'on est les uns face aux autres. Hein, donc, on est tous autour d'une toute petite table ronde avec peut-être un apéro hors caméra. Je ne sais pas. Peut-être un apéro hors caméra. Autant l'épisode de la semaine dernière a beaucoup parlé d'éléments, de Devox, etc. Autant là, on est sur un épisode de news. Donc, on va essayer d'être on fire.
Virtuel.
En plus, le poulet est en train de cuire et ça sent déjà délicieusement bon. Bref, messieurs, premier sujet, Rust pour IntelliJ devient payant. Alors, c'est pas moi qui ai mis cette news-là, donc c'est celui qui l'a fait pouvait se dénoncer.
C'est moi qui l'ai mis, mais à part ce que dit le titre. J'avoue que je ne vais pas aller voir très loin, mais j'imagine que donc, le support Rust d'IntelliJ va faire partie de IntelliJ Ultimate.
C'est pas IntelliJ, c'est comme d'habitude, JetBrains a une idée différente pour chacun de leurs langages.
C'est Rust Rover.
Ah, Rust Rover, ah oui, je vois.
C'est comme. Ça serait plus simple d'appeler à tous les IDE avec le même nom, mais non, ils ont choisi un nom différent, et comme ça, tu dois savoir que WebStorm, c'est pour PHP. Okay. IntelliJ pour Java et Rust Rover.
Est-ce que la news, c'est que ça devient payant ou c'est nouveau?
Non, ça de, si. La news, c'est que il y a un nouveau IDE qui arrive, qui est spécifiquement dédié à Rust, avec une preview gratuite. Et bien entendu, l'IDE, comme tous les autres IDE de JetBrains, il y aura une community, mais il y aura surtout l'équivalent de l'Ultimate.
Et jusqu'à maintenant, parce que moi, j'avoue, je ne suis pas trop dans le monde de Rust, mais jusqu'à maintenant, les développeurs Rust, ils utilisent quoi pour développer en Rust?
Il y avait un support WebStorm, qui a priori, la question qu'on se pose actuellement, c'est s'il va être déprécié ou pas. Parce qu'actuellement, je ne me connais pas trop de l'écosystème, mais le peu qu'utilisé de JetBrains était sur WebStorm.
WebStorm, c'est le
côté PHP historique de
JavaScript, surtout avec un très très bon support JavaScript dans WebStorm.
Historiquement, c'était PHP, ils ont amélioré beaucoup JavaScript, c'est l'application web.
Je sais que la team front de Clever a des licences WebStorm, le reste des équipes a soit de l'open source en Rust, soit du IntelliJ. Comme tout le monde fait plus ou moins de la JVM et du Rust chez nous. Tout le monde a des licences IntelliJ, en plus ça nous permet d'utiliser CodeWiz. Si vous n'avez jamais testé CodeWiz, c'est génial. Le CodeWiz d'IntelliJ, moi je trouve le truc Enfin, je trouve le produit incroyable. Je trouve que c'est un très très bon produit. Ouais. C'est leur truc de peer programming. En fait, c'est, si tu veux, tu vois tous les gens qui te font du peer programming, donc globalement tu lances un Zoom avec un partage d'écran dégueulasse, hein, oui. Et c'est pénible. Là, en fait, tu te retrouves dans l'idée de la personne, tu peux décider de la suivre ou pas de la suivre, donc notamment quand tu dois aller voir une référence de fonction, machin.
C'est le Google Docs du code,
en fait. Ouais, ouais, c'est trop bien. C'est que Visual Studio Code fait depuis un moment aussi.
Non, ça va beaucoup plus loin que ce que Visual Studio Code fait. En fait, ça va beaucoup plus loin parce que tu peux suivre les gens, pas suivre les gens, regarder où ils codent. Tu peux lancer une build sur le PC de la personne qui te partage son truc. Ce qui, notamment quand tu es manager et qu'en fait, tu n'as rien sur ta machine pour le faire tourner et que tu es en train d'aider la personne qui bosse avec toi, te permet de bien avancer. Non, franchement.
C'est comme un VNC, mais en plus optimisé.
Ah non, c'est vraiment un gros outil. Enfin, franchement, c'est, okay. C'est top. Oh, ouais, chez Clever, l'outillage autour d'IntelliJ, enfin, nous, on est les. On paye les licences, hein, voilà. Et on est des assez gros fans de l'outillage auto. Enfin, on a une boîte remote, donc tu vois, des gens qui codent en remote, on le fait souvent, et franchement, c'est un super outil. Si vous n'avez jamais utilisé CodeWiz, moi, je recommande le truc. Moi, pour moi, Rust qui devient payant dans IntelliJ, c'est-à-dire qu'IntelliJ considère que Rust est. En fait, ça y est, c'est industriel. Ça rapporte de l'argent, c'est là, donc on prend notre part, quoi. C'est, pour moi, c'est ça l'histoire.
Et un truc sympa à se rappeler avec IntelliJ, c'est qu'une fois que tu as une licence Ultimate d'IntelliJ, tu n'as pas besoin de te prendre une autre licence pour WebStore, tu peux installer le module qui manque en IntelliJ pour faire l'équivalent de WebStore. Ouais.
En fait, Rust Rover, ça va juste être une licence pas chère, mais dans l'absolu, si tu as tout dans IntelliJ Ultimate, tu fais tout dans IntelliJ Ultimate.
Okay, ouais, ouais,
mais nous, par exemple, tu vois, chez nous, les développeurs back, pour finir, ont un Ultimate, mais les front, ils ont un WebStore. Il y a une vraie différence de prix. La partie économie financière chez nous travaille les sujets.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est des bons outils. Donc pour moi, c'est ça que ça signifie. Le lien suivant, je me demande jusqu'à quel point c'est pas moi qui l'ai mis. C'est un lien sur Damgit. En fait, j'ai trouvé que c'était pas mal. Damgit, c'est une série de. Ah merde, j'ai fait une connerie dans Git.
Ah, oui, je le connais.
Comment je la règle, ouais. Et je pense que ça peut sauver le cul pas mal de gens facilement.
Ah, moi, je le connaissais, c'était Oh Shit, mais ils ont dû le remplacer par dans Git.
C'est juste un doc, en fait. C'est juste genre, j'ai oublié de committer un truc, machin, etc. Ouais. T'inquiète, comment je fais, ouais. Et voilà.
Ouais, elles sont super bien, ces séries. Ouais. Mais... Ils ont changé politiquement correct. Je suis presque sûr que ça s'appelait Oh Shit.
Mais c'est l'argent, le politiquement correct, tout ça. Et tant qu'on est sur Git, je vous propose un deuxième lien, qui est un lien sur un truc qui s'appelle Bitmoji, qui est une proposition de standardisation des emojis à utiliser dans vos messages de commit Git pour signifier des choses. Voilà. Mais je vous rappelle, moi j'ai travaillé avec Philippe
Charrière. J'allais dire c'est Philippe après.
Autant j'adore mettre des commits, autant, honnêtement, ça me fait peur. De voir des souvenirs qu'il faut mettre à Rousseau Lèvre pour indiquer que tu as mis à jour l'interface utilisateur. En plus, s'il y a tout qui me plaît des emojis, c'est un peu les côtés créatifs. Le fait qu'il soit codifié à ce point, ça me fait perdre tout l'intérêt.
Alors, moi, je ne suis pas pour le prendre comme une codification, moi je suis pour le prendre comme une source d'inspiration.
Ah, bon, d'accord.
Rotating Light, Fix Compiler. Ok.
Mais tu veux dire qu'ils vont, créer. Quoi. L'objectif, c'est de créer quand même des nouveaux emojis.
Non, c'est d'accumuler des significations standards pour chaque emoji. Si tu as modifié l'interface utilisateur avec ce commit, tu les mets les petits rouges à lèvres. Ok.
Moi, je demande à ChatGPT quand je veux en faire des emojis. Je ne sais jamais comment trouver les bons emojis pour ce que je veux exprimer. Donc je suis...
Ah, il y a même un emoji pour des codes qui est écrit quand il était bourré. Bon, c'est bien.
Ah, ça, c'est bien.
Mais c'est quoi?
Il faut que je pense à le mettre
dans un ordre automatique. Toujours avec modération.
Oui, mais moi, je ne bois jamais de bière.
Mais justement, toi, tu voudrais peut-être mettre un verre de vin. Non, il faut mettre de bière selon cette spécification. C'est ça que j'aime pas trop. Voilà.
Oh là là. le panneau attention enfant qui traverse, c'est improve user experience. Ouais, pourquoi pas.
Moi, ce que j'aime dans le concept des emojis, c'est réussir à importer directement dans le langage des fois des concepts entiers. Et je trouve ça très intéressant. C'est, c'est comme le hashtag sur Twitter a permis de transformer des fois des noms communs en concepts. Tu vois, tu rajoutes un dièse devant et bam, ça devient un concept. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça existe.
Non, mais c'est marrant.
Bon, je trouve que c'est juste que ça rend plus fort.
Et c'est qui qui a fait ça? C'est quelqu'un avec
Carlos Costa. Un certain Carlos Costa.
Et t'as vu, il a le... Quand tu vois son nom, ça clignote. Il a le... Il a le bling sur son nom.
Est-ce que Philippe Chay a écrit?
Non, c'est ça qui est très agréable de la liste des contributeurs. Philippe, qui connaît ton nouveau projet. Qui s'en va de toi?
Donc voilà, Philippe s'est fait taguer, genre maintenant, moi c'est les emojis. Je vous propose également un autre lien, c'est un nouveau projet de démo qu'on a sorti chez Clever, c'est du .NET. Et du coup, chez Clever, on a un vieux support .NET, et du coup, ça fait longtemps qu'on l'a. Mais là, on a sorti des nouveaux projets de démo sur .NET, et donc on continue à improver l'expérience .NET.
C'est du C Sharp.
Oui, c'est du C Sharp, ouais.
Ça me rappelle qu'il y a quelque chose de C Sharp, l'autre.
Ah ben, moi, je ne fais pas de C Sharp.
Pourquoi tu ne fais pas de C Sharp?
Moi, je suis un développeur Java, donc I don't C Sharp. Je porte Linux.
Attends,
bien. J'ai
complètement...
Non, vas-y.
T'arrives des lunettes. Why Java developers...
Why does Java developer wear glasses? Because they don't see shark. Je pas le... Mais .NET, du coup, j'en ai parlé cette semaine, parce que moi, quand je travaille aux Pays-Bas, .NET, C-Sharp, c'était assez présent dans notre milieu de l'IT. Et à l'époque, le tooling était déjà impressionnant, hein, le Visual Studio, pas Visual Studio.
Ouais, parce qu'on avait utilisé tout ce qu'ils avaient avant avec
C++. Et après, ça n'a pas dans ma bulle, mais je me demandais en France, est-ce que c'est encore beaucoup utilisé, le .NET et le C-Sharp
ouais, moi, j'ai un pote qui fait vachement .NET et C-Sharp. Ouais.
Moi, je me rappelle mon pote, on travaillait sur un projet, moi je faisais du flex, le front, et lui il faisait le back-end en .NET. Et il se moquait tellement de moi, parce que lui il avait un tooling tellement parfait et tout, c'est vrai à l'époque.
Tant qu'on parle de tooling, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle version de VS Code, ça date de quelques semaines, ça c'est un lien qui a été mis au frigo à un moment. Quoi. C'est une version de VS Code qui a introduit une espèce de fonctionnalité à la ngrok, qui permet en fait d'ouvrir des ports et de les exposer sur Internet, etc. J'ai trouvé que c'était un peu chelou dans le monde du sécu, même si intéressant d'un point de vue développeur. Je ne sais pas si vous avez vu, donc du coup, est-ce que votre VS Code prend la main sur le network? Je ne sais pas si vous avez vu cette news.
Ouais. Je ne l'ai pas déjà avant. En fait, quand tu as des conteneurs en fait, dans le cloud, tu peux en fait te connecter avec un VS Code remote. Enfin,
ouais.
Local.
Non, mais là, c'est plutôt tu démarres une appli et tu exposes le port directement.
Là, c'est quand tu démarres ton serveur en local et normalement tu l'ouvres en localhost, il va te permettre de faire des port forwarding et de l'ouvrir dans l'adresse IP externe.
Tu fais Gitpod.
C'est que fait Gitpod depuis un moment.
Ouais.
Et pour moi, c'est au moment où tu peux ouvrir un serveur local qu'il y a un bouton pour faire les port forwarding plutôt que changer une ligne de configuration pour les faire. Ça me semble pas méchant et ça permet des choses comme que mon collègue teste ton dev au fur et à mesure et des choses qui peuvent être sympas.
Après, moi j'imagine tous les RSS d'entreprise qui sont en train de vriller.
Ouais, moi je vais surtout l'étude.
Dans ces cas-là, il n'y a rien qui soit permis de faire là que tu ne puisses pas faire avec une simple ligne de commande. Il ne fait rien de spécial là. C'est de la configuration, il prend un bouton de la configuration. Ton Python-M HTTP server, il suffit de le binder sur la.
C'est un tunnel SSH.
Non, mais même pas un tunnel SSH, soit il le binde sur localhost, soit il le binde sur 0000.
Non, c'est pas ça, c'est celle-là. Avec, enfin, pour moi, un grog, imagine que tu es dans un réseau interne. Tu peux quand même l'exposer.
Non. Ce qui fait Visual Studio Code pour le moment, c'est que tu as ressources locales et tu vas pouvoir les servir. Pour moi, il n'arrive pas au point de. Je vais te chercher.
Si c'est un grog,
un futur plugin de Azure DevOps. Tout ça, c'est les outils Microsoft. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas eu une. Dans la keynote de chez Oracle, là, à DevOps, il n'y a pas eu un sujet sur Oracle?
Ouais. Il y a. Alors, on me l'a compté, je suis sorti avant. Apparemment, Oracle a annoncé une série d'extensions, enfin une extension diffuseur pour le support Java dans VS Code, parce que, soi-disant, le support actuel
n'existait pas, n'était pas complet, n'était pas bon, n'était pas utilisable.
Et c'était c'est une extension fournie par Radat, et on a plutôt des bons défauts.
C'est surtout que l'extension Java de Radat, en fait, utilise Eclipse sous le capot, alors que celle de Oracle va utiliser NetBeans.
Mais surtout le plugin, c'est juste le language server protocol, quoi. C'est juste une implémentation.
Oui, tout comme ça. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire que le back-end, le moteur, en fait, derrière, sera différent. Ça sera le moteur de NetBeans plutôt que.
Donc, petite pique, mais il faut encore. On a dit quoi là, cet épisode, c'est un épisode de news. Donc,
ouais, c'est
ça. C'est Quentin. Non, mais c'est vrai, on n'a pas parlé de ça.
Quentin répondait à un texto.
Effectivement, je reviens un instant sur la news précédente de Visual Studio Code. Pour le port forwarding, il faut être logué sur GitHub et il va ouvrir un port dans un serveur qui est compliqué. Et c'est le même. Les mêmes interfaces de gestion de ouverture de port qu'il a actuellement sur GitPort, par exemple.
Non, mais c'est ça. Hein.
Mais c'est ça.
Pour moi, ils sont en train de prendre ce marché-là.
Et si je fais GitLab, comment faire? Comment reposer ça?
Je pense que là,
GitLab va sortir un clone de la fonctionnalité dans 2 semaines, codé à la Warmat.
Ouais, mais c'est juste des serveurs de GitHub, je pense.
Ah. Non, mais puis en plus, GitLab, c'est pas des copieurs. C'est pas leur style. Ils n'ont jamais copié le produit de quelqu'un.
Et ils ont prévu, on remarque sur les RSSI, ils disent, si vous faites partie d'une organisation qui souhaite contrôler l'accès au port forwarding, ça peut se permettre au CDNIE via la configuration de Visual Studio.
Ça, c'est le côté Microsoft de l'opération.
Voilà.
Mais est-ce qu'il y a vraiment le nom NGROG?
Non, c'est pas NGROG, c'est pas NGROG, c'est pour forwarding. La fonctionnalité s'appelle Visual Studio pour forwarding.
Le message vous avez NGROG est « Allez mourir, nous allons vous remplacer voilà. ». Mais tu sais, c'est toujours ça, hein, tu lances une petite fonctionnalité, les gros t'intègrent. Hein, tu sais. Donc si t'as refusé leur offre de rachat, en général, tu te fais bouffer. En parlant de fonctionnalités, c'est moi qui ai mis une news. Il y a eu une énorme release chez Metabase, qui est la version 47. Et il y a beaucoup de trucs, des exports PDF, la capacité à uploader des CSV, la capacité. Enfin, beaucoup de choses. Donc, Metabase, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de visualisation de data. De BI en fait, c'est un peu de la BI du pauvre, c'est un peu le tableau du pauvre, enfin du pauvre, on n'a pas mis de time code. Oui, c'est un outil que je trouve très intéressant, et nous on l'utilise beaucoup chez Viewer, et ouais, la version 47, impressionnante, donc si vous ne l'avez jamais testé, ça vaut le coup.
Vous l'utilisez pourquoi? Par curiosité?
Ah, toute la BI.
Toute la BI,
ok. Tabasse là-dessus, machin. Les gens de la finance font ça, ils font des petits dashboards, ils font des trucs. Mm-hmm. La gestion, beaucoup de gestion, SEO, CDK, des fraudes, pas fraudes, etc. sont gérés dans des dashboards, de Metabase. D'accord. Les utilisateurs de succès,
c'est vraiment pas mal. Ah, oui. Superset,
c'est un concurrent de Metaverse.
Voilà, c'est ce qu'on utilise.
C'est Apache Superset, c'est bien.
C'est ce qu'on utilise chez Ivan.
Ouais, mais c'est les deux, pour moi, c'est les deux trucs en open source.
Ok, donc non, mais voilà. je vois très bien ce que ça va. Ok.
Toujours sur les releases, les frameworks a réalisé la 2.9. D'abord, ce qui est gentil.
Il y a des gens qui l'utilisent encore.
Et surtout, c'est la version qui fait. Alors, nous, on en parle pas mal quand même de Play Framework. Mais il y a la version de Scala 3, donc Play Framework. Je suppose qu'il y a 2-3 subsurries, parce que AK est toujours pas compatible avec Scala 3, mais voilà.
J'ai le droit de dire que Play Framework 1 me manque encore. Mmh. Après toutes ces années.
Alors, Play Framework 1 a été, je pense, le précurseur de Spring Boot. Le précurseur de Quarkus. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'était Play Framework 1, c'était un peu. C'était un peu Java on Rails, en fait.
Il y avait Grails.
Grande époque, moi j'étais contributeur.
Il y avait Grails aussi, mais ça.
Oui, mais c'était du Groovy.
Oui.
Là, tu t'écrivais du Java. Ouais. Tu t'écrivais du Java qui se faisait préprocesser par du Python. Large discussion avec Guillaume Bord à l'époque. Ouais. Mais c'est vrai que qu'est-ce que tu étais productif en Play Framework. Moi, j'aimais
Play Framework, c'était les frameworks de développement web que j'ai préféré dans ma carrière.
Et tu dis qu'un Quarkus ne se cache pas du tout, hein, parce qu'il y a Stéphane Epardo qui est partie de l'équipe Quarkus qui a parlé.
Ah, bah oui.
Et il le dit très clairement, la partie Hibernate Panache, Active Record des Bonita, il s'est clairement inspiré de Play.
Mais Zengularity, puis Fabian Novel Technology, en fait, tout ça, ils ont vendu Play Framework à Lightpen qui à l'époque s'appelait. Comment ça s'appelait déjà
avant Lightpen, oui, je crois.
Et quand Play Framework 2 est sorti, donc c'était Scala First, ce qui était logique, il fallait un framework web à Scala, et ça a été génial jusqu'à la version 2.7. Bon, c'était des développeurs Scala, après, t'as jamais fait le prix, mais maintenant que tu fais du Java 21, en fait, tu vois, tu fais du Scala. On fait de l'immutable, t'as du pattern matching, t'as des maps sur les collections, tu vois. L'histoire, c'est qu'en fait, à la fin, parce qu'à la fille, on a gagné. Tiens.
L'histoire racontera qu'à la fin, Scala a servi à quelque chose, oui.
Bon, ça a servi à beaucoup de choses. Je te souviens que ça fait tous les jours tourner la plupart des banques, Fortnite et compagnie. Hein. Tout ça, ça tourne en Scala. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tournent en Scala. Après, aujourd'hui, c'est moins hype, parce que la communauté n'est pas très bien gérée. Entre Scala 2 et Scala 3, il y a un peu un effet Python 2, Python 3. Donc, il y a eu beaucoup d'ambition dans Scala 3 qui cassait des trucs et ça a foutu un peu la merde.
Un jour, les langages apprendront que ce type de choses, en général, c'est pas mal. Les langages et les frameworks, on revient à Play, qui nous a fait une Angular, quoi, entre Play 1 et Play 2, quoi.
Entre Play 1 et Play 2, c'était réécrit ton code, quoi. Voilà. Après, il y aura toujours des gens qui veulent faire des breaking changes en regardant le nom et la communauté. J'ai toujours pensé que c'était des idées de merde, mais voilà.
Python professeur, je sais
pas. Python, tout le monde a prouvé que dire aux gens réécrit la totalité de ton code, en fait, c'est créer une nouvelle branche technologique et ça fout une merde apocalyptique. Il y a toujours des gens qui maintiennent Play 1. Toujours des gens en Play 1, et il y a toujours des gens qui maintiennent Play 1. C'est pas un fort que, en fait, la communauté a repris, les boîtes qui étaient derrière Play ont lâché le management, et c'est la communauté qui a repris, parce qu'en fait, il y a des gens, leur business tient sur Play 1, en fait, tu vois. Quand t'as des milliers de lignes de code et tout ton business qui tient en Play 1, qu'est-ce que tu veux faire? T'es en Play 1, quoi.
T'as toujours des communautés autour des vieilles.
Play 1 marche avec Java 21.
Probablement, parce qu'il n'y a aucune raison pour que ça marche pas.
Non.
Après, tu vois, mais enfin, tu sais très bien comment c'est. Le business de l'open source aussi, c'est le marketing qui va autour. Hein. Tu t'injectes de l'argent dans le marketing, etc. Je me souviens très bien. Hein. Quand on a fait les démarrages du JavaScript Server Side, Node a un rôle, il a l'argent de Google. Parce que Google avait envie de prouver que lui était meilleur. Et tout le monde s'est fait rouler dessus. Si tu veux faire contre des millions de dollars. La communauté open source, c'est pas juste les bisounours, c'est et le meilleur gagnera. Enfin, sinon, il n'y aurait pas autant de gros mots technologiques utilisés par tout le monde. Hein, tu vois. Donc, non, c'est marketing de moi, ça. J'ai dit aucun mot sur gros mots technologiques.
Non, si on écoute les messages précédents, ils vont peut-être faire des liens avec ce qu'on a dit dans l'épisode précédent.
Peut-être, je n'en sais rien. À propos de Breaking Change, Svelte, un gros framework JS, nous fait une grosse update et bah, propose
pas
une...
encore. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Svelte, ils sont en train de travailler dans la version 5 et pour l'instant, ils sont sortis une première preview. Et dans la première preview, ils changent un peu, dans le sens qu'on disait, ils changent un peu des choses que pour certains de la communauté, et transforme un peu le framework en question. C'est un framework qui est extrêmement basé dans la simplicité, et donc il y avait une façon de définir les propriétaires réactifs, une façon de définir les stores auxquels ils pouvaient se souscrire pour les changements d'état. Et là, ils ont décidé qu'il y a une nouvelle syntaxe qui arrive avec Svelte 5, basée sur l'idée de quelque chose qui s'appelle Rune, derrière, c'est des passages de signaux, comme il y a dans d'autres frameworks JavaScript depuis Knockout en 2010, 2011. Et donc, il va y avoir un... Ça rappellera les choses aux gens qui ont fait beaucoup d'AngularJS, par exemple. Il y aura des $C, $ça, pour créer ces signaux-là, pour créer ces runes qui permet de communiquer autrement avec les stores. Le problème, c'est que pour l'instant, on a qu'un article de blog et une preview technique qui nous dit c'est super, ça va marcher très bien, ça va être plus simple. Donc, là où avant, tu disais let count égale à 0, là, tu dis let count égale à $state 0. Donc, tout le monde voit, bah, je verrais plus simple la ligne précédente. Mais tu pourras utiliser la même syntaxe côté .svelte que côté JavaScript. Et on ne sait pas où est-ce que ça va arriver, qu'est-ce que ça va donner, mais quelque part, ce n'est pas très étonnant. Svelte 5 n'est pas encore là, ce n'est pas pour demain, ni pour le mois prochain, ni pour dans des mois. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des changements. Mais vu comme le projet a évolué en gardant une communauté très fidèle et tout depuis quelques années, je pense qu'ils vont réussir à le faire sans casser trop la façon de faire et l'accompagnant. Pour moi, ça ne sera pas un breaking change. Au moins, c'est ça que j'espère.
Moi, je trouve que c'est intéressant de voir évoluer la totalité des frameworks JS, parce que tu vois, ça fait 10 ans qu'on peut ressortir la même vanne sur les frameworks JS, ouais. Donc, toutes les 4 minutes, donc c'est bien. Et puis, écoute, au moins, c'est créatif comme environnement.
Ouais.
Il y a de la créativité, moi je trouve ça bien.
Ouais, mais on pensait que ça allait. Enfin, moi je pensais que ça allait se décanter à un moment donné. Mais apparemment.
Non, mais deux développeurs JavaScript dans la même pièce et finissent avec trois frameworks, quoi.
Tu connais la blague hein, sur les partis politiques. Tu mets deux trotskistes dans une salle, t'as une tendance, tu mets trois trotskistes, t'as une scission. C'était la blague politique du jour. Je vous propose ensuite une news qui va dans la droite ligne. C'est des nouvelles de Cerveau. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a très longtemps, si Rust est né, c'est parce qu'en fait Mozilla a eu du pognon de Samsung pour faire un moteur de rendu vraiment parallèle. Donc là, ils se sont dit, on va peut-être ne pas refaire tout en C++, parce qu'en fait... c'était juste après Electrolysis. Donc Electrolysis, pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment où on a séparé les threads de rendu des différents onglets d'un Firefox dans des threads différents. 5 ans de boulot, 14 ans de dépression, 8 burn-out, enfin un enfer absolu dans le code de Firefox de faire ça. Et donc là, ils se sont dit, bon, on va arrêter le tir avec C++ qui n'est pas fait pour ça, hein, parce que je rappelle que tous les moteurs de rendu et tout le web, en fait, vient de code patrimonial des années 90, hein, donc c'est pas du tout du code récent, en fait, c'est assez des vieilles merdes, en fait, ces trucs-là. Et donc, à l'époque, si Rust est né, c'est parce que Samsung voulait un moteur réellement parallèle, et donc, du coup, la Mozilla Foundation plein de raisons. Samsung ne pouvait pas parler avec Microsoft, qu'elle Windows soit. Enfin, ouais. C'est compliqué politiquement. C'est le seul acteur avec lequel il pouvait parler, c'était la Mozilla Foundation. La Fondation Mozilla Foundation avait lancé du coup la création d'un nouveau moteur de rendu qui était Servo et qui s'appuyait sur Rust parce qu'il ne fallait pas réécrire des trucs en C++. Et en fait, Rust a bien décollé et Servo, quand Mozilla a eu des problèmes de pognon, en fait, ils ont fini par liquider l'équipe Servo. Mais Servo est hyper impressionnant. Enfin,
c'est la même chose de Firefox OS aussi.
Non, c'est juste c'est après.
Ils avaient déjà laissé tomber Firefox OS.
C'est des équipes différentes. En fait. Okay, c'est des trucs parallèles en fait, chez Mozilla. Et ça a donné Rust. Rust, qui aujourd'hui est massivement adopté chez tous les gens qui font du level. Enfin, bon, c'est vraiment un langage incroyable. Bon, je passe les podcasts à dire que Rust est génial. Donc je pense que les auditeurs sont au courant de ça. Et en fait, Servo. Avait perdu du coup des voleurs. Et là, il y a une boîte italienne qui le reprend. Le projet Servo a été donné à la Linux Foundation, puis à la Linux Foundation Europe. Et donc, ça y est, il y a de nouveau des owners et des gens qui financent et qui font fonctionner le projet Servo, qui est, à mon humble avis, le futur des web browsing. Donc, allez contribuer à Servo et créons un browser européen.
Et pour ma... juste pour ma compréhension de l'affaire, la Linux Foundation Europe et la quelle relation avec la Linux Foundation et qui portait à le fait que ça Linux Foundation Europe et pas Linux Foundation ce projet.
Alors, j'ai précisément fait une demande à mes équipes légales et au cloud diplomate de Clever de pouvez me démêler cette histoire si j'y comprends que
non. Ouais.
Voilà, pas encore la réponse. Ok, donc ça te semble le sécurité que pour
ouais, moi. Que ça m'a...
Moi, c'est les côtés pour Linux Foundation Europe qui va
Linux Foundation Europe qui est, comme tous les bidules, une AIFBL belge. Donc, là, quand on est en Belgique, on peut le dire. Donc, la Linux Foundation Europe, à la fin, il y a une signature du roi des Belges. C'est ça que ça veut dire. Toutes les ISBN, les signatures du monde des
films de la chaîne Bretagne.
Oui, non, mais c'est couvert, j'aimerais bien avoir les. Ok.
C'est un tracé fédéral, peut-être.
Hein. Je sais pas. Il faut que je te dise, je n'ai pas les news encore là-dessus. Mais en tout cas, il y a des gens qui bossent sur Servo et ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Ouais.
Mais ça ne pourra que sortir. Enfin, il n'y a qu'avec un nouveau browser que
ça sera un browser de Netflix, un browser associé.
Ah ben, en fait, les Italiens qui font ça font un browser.
Ah.
Bravo.
Moi, je... Félicitations.
Bravo.
Ne fais pas de blague, Brendan Eich. Trop politique, Brendan Eich. Et tant qu'on parle de Rust et de formation, j'en profite pour larguer l'info que Clever Cloud a maintenant un compte Twitch et que dessus on fait des cours de Rust en fait.
Oh, avec notre ami Akanawa.
Akanawa, exactement. Qui est un Rustois que.
Oh, c'est des MSLF et.
Et vous voulez une blague, je peux vous raconter le recrutement d'Akanoa.
Et moi, très gentil.
Bah, vas-y.
Moi, quand j'ai début Covid, j'ai commencé à faire beaucoup de streams avec pour Red Hat en français. Et s'il y a une personne qui a assisté à tous mes streams, il a été à tous.
Akanoa est quand même parti recréer un CPU et un langage complet d'assembleur et etc. Le tout en visuel pour vous apprendre comment fonctionne un CPU en stream. Et après, il m'envoie des textos en disant genre, mais en fait, tout le monde s'en fout, il n'y a personne sur mes streams.
Ouais.
Mec, tu lances des streams à 8h le matin, le 15 août. Oui, il n'y a personne. Donc, ça, c'est Akanoa. Il est un peu particulier. Et si vous voulez, je peux vous raconter son recrutement parce que c'est assez drôle. C'est une fois où moi j'étais à Brest. Et du coup, il y a une petite tradition quand je suis à Brest le vendredi, c'est de faire un apéro. Enfin, il y a une tradition Clever Cloud à Brest qui est de faire un apéro le vendredi soir. Peut-être qu'il y a aussi un apéro les autres soirs, mais voilà. Et en fait, donc j'étais à Brest un vendredi. Donc, je dis, faisons ça. Et il y a Steven qui me dit. Oui, puis en plus, les nouveaux qui vont arriver avec Clever Cloud Brest seront à cet apéro-là, c'est bien qu'ils soient, tu les accueilles. Et dans la journée, en fait, j'envoie le profil Twitter d'Akanoa en DM à Steven en lui disant, donc Steven, pour ceux qui ne savent pas, c'est le CTO de Clever, lui, il a l'air intéressant, enfin, Pourquoi est-ce qu'on ne le recruterait pas, en fait? Apparemment, il est à Brest, on pourrait lui proposer de passer ce soir, etc. J'ai eu une réponse par texto un peu déceptive de Steven, disant, genre, bah, en fait, il sera là ce soir, il commence chez nous lundi. C'est toi qui as signé son contrat de travail. C'est ça. Alors, ah, c'est lui, bah, fuck, alors. Voilà, voilà. C'est les vicissitudes du.
Et c'est vrai que la première fois que je l'ai rencontré, c'était une conf et il avait l'air de me connaître. Et puis finalement, il a dit ah, mais je suis à Canois. Et là, j'ai fait la connexion. Ah, mais c'est toi.
Un fidèle du camping, hein, aussi.
Voilà.
Mm-hmm. Allez, bisous, fais un bisou. On en profite.
Et tant qu'on parle de technologie web. Parce que bon, on a fait un détour par le Twitch de Clever, donc je vous invite à suivre le Twitch de Clever, mais tant qu'on parle de technologie web, une petite news que j'attendais depuis longtemps et qui pour moi est, est un des succès total de cette stratégie-là, Photoshop fonctionne maintenant en Amazon dans Browser.
Ah ouais,
c'est une vraie news.
Ouais, c'est une vraie news. C'est
ça marche peut-être déjà depuis un moment, c'était une des preuves du concept de que c'était surtout des anciennes versions, c'était la preuve de concept que WebAssembly permettait de faire ça.
Ah,
et maintenant, ils ont décidé de mettre la version actuelle, pas une vieille version.
Qui sera encore mieux avec ça, au bout du coup.
Ah, t'aimes bien lire les différentes news, non?
Mais ça marche.
Ils sont bien. Ça. Je n'ai pas, ça dira que je n'ai pas un compte Photoshop activé.
Non, mais ça marche. Je veux dire, j'ai vu des gens s'en servir, c'est un truc. Bah, ce qui prouve que WebAssembly, bah, en fait, ça marche.
Ouais.
Ah, mais là, on est complètement d'accord, tu vois. Mm-hmm.
Et moi, WebAssembly, j'ai toujours cru à ce truc. D'ailleurs, on a construit le Function as a Service de Clever, qui, si vous le demandez gentiment, on peut vous filer une technicienne preview dessus. Mm-hmm. C'est du WebAssembly, donc on boot. Le WebAssembly, enfin, des fonctions d'un service de Clever, on crée une machine virtuelle par instance de fonction. Mmh. Parce qu'en fait, les machines virtuelles, c'est hyper rapide, c'est juste les gens qui ne savaient pas. Mais en fait, c'est hyper rapide ce truc. Donc, c'est génial. Et WebAssembly, à mon humble avis, c'est un des trucs les mieux qui a été créé ces dernières années. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme technologie.
Non, mais il y a des boîtes comme Fermion qui font ça. Hein, ils font du serverless AI. Oui, ils ont des modèles et tout.
Et toutes les évolutions, toutes les standardisations qui arrivent à WASI, c'est-à-dire à la fonctionnalité pour faire des lectures, écritures, système depuis WebAssembly, et aux interface types, c'est-à-dire à ce qui permet de WebAssembly de communiquer avec d'autres programmes, vont faciliter l'utilisation énormément.
Ce qui manque un peu à WebAssembly, de ce que j'ai lu de quelqu'un qui disait, c'est, pour l'instant, c'est que des bros, enfin, c'est que des boîtes. Il n'y a encore aucune...
Non, il y a plein de petites boîtes qui
s'aiment. Oui, mais il n'y a pas une spec, une gouvernance.
Si,
c'est très bien structuré.
WebAssembly, c'était un de ces projets qui, avant que la version 1.0, la version 1.0 est sortie, tous les navigateurs, incluant des trucs comme Safari, l'implémentaient parfaitement bien.
Je parle peut-être plutôt de WASI, du coup.
WASI, pour l'instant, c'est une de ces parties-là qui est...
L'API qui permet l'accès au réseau, au système de fichiers,
etc. C'est un peu
quand on peut définir les choses, et c'est le moment où le nom de la norme m'échappe dans les operating systems. Non, pas OSI, POSIX. C'est un peu le POSIX operating system version WebAssembly. Ouais, ouais.
C'est justement donner des primitives POSIX à WebAssembly.
Oui.
Et là, ça commence, et selon me raconté dans le talk, justement, que tu as raconté dans l'épisode précédent, que tu n'avais pas vu en MTF, la idée, c'est de
faire la manière standard. Du tout, en fait.
Si, la vie est vue. Ils sont entrés à la manière standard. Il y a maintenant des primitifs en WebAssembly pour les garbage collectors. Sauf que là, ça attend aussi des évolutions. Pour l'instant, ça fait que les langages qui ont un garbage collector doivent créer des WebAssembly un peu plus complexes, mais ça marche déjà pour plein de langages comme Go, par exemple. Mais l'objectif, c'est que les primitifs soient plus larges pour permettre des langages comme Java de compiler vers WebAssembly d'une façon plus simple qu'aujourd'hui.
Et peut-être que WebAssembly va finir par faire le truc dont parlait l'épisode précédent, qui est la fameuse machine virtuelle d'exécution universelle.
Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est carrément ça. C'est pour ça que je te disais que Kubernetes ou pas Kubernetes, pour moi, ce n'est pas le problème. Je n'ai aucun problème avec Kubernetes, je l'ai avec Docker.
Mais oui, mais parce que c'est un management dégueulasse. Mais après, encore une fois, moi j'aime qu'on reste à un niveau d'abstraction très élevé et qu'on descende le plus tard possible. Mais ça restera mon avis dans le truc, parce que pour moi, l'informatique restera toujours une opposition entre « it works » et « j'ai expliqué à la machine comment ça devrait fonctionner ». Et tu vois, cette opposition fondamentale entre les deux, pour moi, elle est importante, et pour moi, c'est ça l'enjeu.
En tout cas, on est d'accord que WebAssembly est en train de changer les choses à grande vitesse.
Donc voilà, on pouvait jouer à Quake en WebAssembly, mais maintenant...
Ou à Doom aussi.
Ou à Doom, mais maintenant, on peut également retoucher les photos et supprimer les bourrelets de vos photos de vacances. C'est donc un succès.
Et pour rentrer dans les thèmes, bien entendu, avec un assistant d'intelligence artificielle, ce nouveau Photoshop a les boutons générés intégrés.
Sujet suivant. Ça, c'est un petit lien que je vous propose. C'est une découverte que j'ai trouvée absolument géniale. OpenCore Legacy Patcher. C'est des gens qui ont été écrire des bouts de script dans tous les sens et des bouts de soft pour permettre aux vieux Mac qui n'ont pas le droit aux dernières mises à jour de chez Apple, aux AirPlay dernière génération, aux drivers d'écran, etc., d'avoir les mises à jour. Donc c'est de l'écologie numérique en vrai. Ça, c'est de la durée de vie du matériel. Ça, c'est beau. Et a priori, ça marche du feu de Dieu. Moi, j'ai un vieil iMac qu'il faut que je patche là, et voilà.
Est-ce que tu installerais plutôt Linux sur tes vieux Mac?
Alors, moi, oui. Mais parfois, les gens avec qui il faut que je laisse le vieux Mac, non. Mais je trouve que c'est très drôle. Et je pense que ce projet peut rendre service à de nombreuses personnes. Donc voilà, c'était mon conseil durabilité de la journée.
Le premier qui réagit, c'est vraiment bon.
Est-ce que vous avez fait un tweet disant qu'on l'enregistrait?
Non, sur la news que tu viens de dire sur le Mac. Et je vois le premier qui réagit, c'est Henri Domène. Salut Henri.
les algorithmes de compression sont concurrencés par l'IA.
Oui, et là, l'histoire est bien curieuse. Les algorithmes de compression, surtout les algorithmes sans perte, c'est-à-dire qui peuvent PNG pour une image, et on sait depuis longtemps qu'il se base sur l'idée de on va compresser l'information sans ajouter aucune perte, et donc on va surtout essayer de voir comment on peut prévoir des choses qui vont se passer dans l'image, et si on les prévoit et les choses sont comme prévues, on n'a pas besoin de, si à partir du même début on peut prévoir les X bytes suivants, on n'a pas besoin de les mettre. Et donc, ces algorithmes-là sont très adaptés à ce qu'ils veulent compresser, à l'image en PNG, par exemple, et arrivent à te réduire la taille de l'image de façon très conséquente, en éliminant des redondances, en éliminant là, il y a 20-0 de suite, j'ai mis 20-0 et pas 1-3. Et ces algorithmes-là, il y a des chercheurs qui sont dit, mais tiens, ça marche un peu comme un modèle d'intelligence artificielle que en base à un prompt, il essaye de prévoir la sortie statistiquement la plus probable. Parce que le modèle d'intelligence artificielle, LLM aujourd'hui, c'est basiquement prévoir de façon statistique quelle est la réponse qui te convient. Donc c'est le même type de fonctionnement. Conclusion, ils ont pris des images brutes, de grandes images ou d'audio de la musique, et les ont donné à un LLM pour essayer de calculer inversion compressée. Et effectivement, quelques essais de LLM, en gardant la même qualité, a fait une compression sans perte, plus réduite, ou même beaucoup plus réduite, que certains algorithmes très utilisés. Après, ça reste à voir quelle optimisation de l'algorithme PNG, parce qu'il y a plein de niveaux d'optimisation non vérifiés, Il y a plein de choses qui ne sont pas très claires dans l'article, mais les liens méritent d'être lus. Mais c'est surtout l'idée de, tiens, à la base, si tu mets intelligence artificielle, non seulement comme intelligence, mais comme un moteur pour faire des prédictions, il y a des applications qu'on n'avait pas pensé qui peuvent apparaître.
Ouais, ouais. Pour moi, c'est assez logique, parce qu'en fait, déjà, dans le langage humain, le langage humain transfère 12 kilobits d'informations à la minute hein, dans la discussion. C'est assez dégueulasse, hein, le langage humain comme transfert. Et c'est vrai que pour à peu près tous les langages, il n'y a pas tellement de langages plus rapides que les autres. Les gens qui avaient fait des recherches là-dessus. Et déjà, en fait, pour ça, on utilise des modèles de compression. En fait. C'est ce qui explique les dialectes par, profession, en fait. En fait, quand on se parle, nous, d'informatique, en fait, on compresse. Parce oui. En fait, quand on donne un terme, c'est déjà un terme compressé, en fait. Et donc, en fait, j'y avais pas réfléchi sous la forme de compression de data, mais c'est assez logique que ça marche. En fait.
Mais c'est ça, une fois qu'on te l'a dit, ce qui est curieux, c'est qu'une fois qu'on te l'a dit, tu dis, ah bah oui, mais c'est que c'est LLM, c'est pas que l'intelligence artificielle, ou peut-être l'intelligence artificielle, c'est réducteur comme façon de le voir, paradoxalement.
C'est, c'est une information extrêmement pertinente qui nous est apportée. Est-ce qu'on a d'autres liens ou est-ce qu'on passe au
sujet de
l'épisode ?
Non, on a un dernier lien.
C'est un outil de l'épisode.
Ah, ok.
Oui, puisqu'en fait, j'ai volé la rubrique des cascodeurs sur les outils de l'épisode. Cette fois-ci, je vous propose Yazzie. Yazzie, un petit outil en Rust qui est en fait un file manager. CLI qui m'a fait rêver.
Attends, je me rappelle comment s'appelait les trucs qu'on utilisait.
Night Commander.
Night Commander, ça me rappelle Night Commander.
Midnight Commander. Et oui, mais là, c'est plus moderne, c'est écrit en Rust, c'est le futur.
Ouais, c'est le futur et c'est le passé, c'est beau.
J'ai rien compris qu'il disait la version Linux de Midnight Commander.
Mais sur WhatsApp, j'ai envie de la dernière news qui est un peu relative à ça, du coup. Le Rust Player, qui est un player audio.
Ah oui, tout à fait.
C'est vrai, le deuxième outil de l'épisode.
Deuxième outil de l'épisode.
Ouais.
Donc, vous vous rappelez que moi, ma prédiction à la base était de dire que la totalité des outils de GNU finirait réécrit en Rust, parce que en fait, c'est ça la logique du futur. Et bien là, nous avons le Rust Player.
C'est lui qui m'est parvenu par Olivier Ponce et qui a présenté ça pendant un de ses lives.
D'accord.
Et un petit lecteur en CLI, vachement bien fait.
Ah oui, tu as
noté.
C'est bon, je l'ai mis.
Là, tu l'as. Ok.
Donc, tout GNU va finir par être écrit en Rust parce qu'un jour, tout GNU aura envie d'être parallèle. Et donc, on a, pour moi, c'est le futur, en fait. C'est le futur. On va tout réécrire en face.
Si le futur, ça revient à une commande, des choses comme ça.
Alors, David serait là, il répondrait, non, on va tout réécrire en V. Mais David a un tropisme en ce moment sur V. Est-ce que vous avez encore d'autres news, ou est-ce qu'on se désannonce ? Est-ce que quelqu'un a une musique à proposer pour la fin de l'épisode ?
Non.
Comme moi, j'écoute beaucoup de musique, oui. J'ai récemment découvert un nouveau compositeur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Joe Henry. Joe Henry, pour moi, c'est un digne héritier de Leonard Cohen et des grands poètes anglais américains. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, c'est le beau-frère de Madonna. Mais vous voulez un dépressif qui parle la langue anglaise magnifiquement, fait une poésie splendide et qui a juste une guitare, une voix incroyable et qui vous raconte la douleur d'être un Américain cultivé dans ce pays de bœufs, eh ben, je vous envoie écouter du Joe Henry. C'est magnifique, c'est splendide, moi j'aime beaucoup. Et c'est ma découverte, c'est la découverte que je vous propose de cette fois-ci, et qu'on va utiliser comme musique de désannonce. On a été extrêmement rapide pour cet épisode de news au sein de Devox, ce qui nous permet de faire un épisode de moins d'une heure. J'espère que vous avez aimé cet épisode de news à Devox. Je vous laisse vous annoncer les uns après les autres.
Des annonces, c'est B2706.
Je me les annonce, l'Ostrie Britannique, perdue en Bretagne.
je me désannonce underscore underscore Synix underscore.
Et donc toujours WXZCE pour vous servir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks sur cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et merci et à très vite. Bisous.
Bisous. Ciao, ciao.
Ciao. No one you can name is just that one thing they have shown. Are you leaning to shadow and doubt?